Bienvenue à nouveau. On continue notre exploration de ces documents vraiment passionnants.
Oui, on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois.
Exactement. Aujourd'hui, on va regarder de plus près l'évolution de la stratégie. Les débats internes aussi que ces textes nous révèlent.
Effectivement. Et ces écrits y donnent un aperçu assez remarquable des changements de direction et même des tensions, quoi. On pourrait peut-être se concentrer sur l'évolution de la vision autour des outils informatiques, la conception. Ce qu'en disent les sources.
Parfait, allons-y. Alors, déballons ça. Un truc qui saute aux yeux assez vite, c'est cette tension précoce même entre le contrôle direct par l'utilisateur et l'automatisation.
Ah oui ?
Les documents opposent vraiment le contrôle très détaillé qu'on avait avec les premiers logiciels sur PC et puis l'envie d'avoir des systèmes qui font le boulot de manière plus autonome.
C'est ça. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est que ça reflète un débat plus large.
C'est-à-dire ?
La culture, un peu, faites-le vous-même des pionniers de l'informatique face à l'émergence d'une économie de services. On veut que ça aille plus vite, que ça soit plus simple.
D'accord.
Les documents parlent de systèmes subservients, comme le concept de CAD/CAM, par exemple.
CAD/CAM ?
Oui. L'idée, c'était de transformer automatiquement des images en bases de données de conception assistée par ordinateur, la CAO.
Ah oui, la CAO.
Voilà. C'était vu comme une voie d'avenir, bien plus qu'un simple outil puissant. On cherchait à créer des assistants, pas juste des outils, quoi.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on voit cette tension dans l'évolution même d'AutoCAD.
Tout à fait.
Au début, c'était basé sur des commandes textuelles, très précises, mais bon, pas évident à prendre en main.
C'est ça, une courbe d'apprentissage assez raide.
Puis, ils ont ajouté des menus, tout en gardant la ligne de commande pour la programmation via Autolisp, notamment.
Et pour les utilisateurs avancés qui préféraient cette méthode.
Voilà. Et plus tard, il y a eu cette poussée vers une interface plus intuitive, événementielle, avec des boîtes de dialogue. On voit ça dans le projet Urgente Furie.
Si on replace ça dans une perspective un peu plus large, cette évolution, elle suit la tendance générale du logiciel. Mais la spécificité d'Autodesk, c'était de superposer ces interfaces sans supprimer les anciennes. Et ça, c'était essentiel pour l'extensibilité de leur architecture ouverte.
L'architecture ouverte, c'était un peu leur marque de fabrique, non ? Pour que d'autres puissent développer dessus.
Exactement. Un choix stratégique majeur qui a beaucoup contribué à leur succès.
D'accord. Et il y a d'autres tensions qui apparaissent clairement dans la stratégie produit elle-même.
Oui.
L'introduction d'AutoSketch, par exemple. Une version simplifiée moins chère.
Ah oui, pour toucher un autre marché.
Oui, mais avec le risque de cannibaliser un peu les ventes d'AutoCAD. Ça a dû discuter ferme en interne, ça.
Probablement, oui. La segmentation, c'est toujours délicat. Et puis, il y a eu surtout la grosse controverse autour du hardware lock.
Ah, la fameuse clé matérielle anticopie.
Exactement. Ce cas du hardware lock, ce petit dongle-là qu'il fallait brancher.
Oui, je me souviens.
Il illustre parfaitement le conflit entre, d'un côté, protéger la propriété intellectuelle et donc les revenus, et de l'autre, maintenir la bonne relation avec les utilisateurs, surtout les petits.
Ceux qui avaient fait le succès le début.
C'est ça, le cœur du marché initial. Les documents montrent un débat interne assez houleux.
On imagine.
Les arguments pour, c'était l'équité, la valeur du logiciel. Mais bon, finalement, ils ont fait machine arrière.
Ils l'ont retiré.
Oui, jugé commercialement trop dommageable. Ça risquait de se mettre à dos une part trop importante de la clientèle.
Logique, commercialement parlant. Et puis, il y a le grand défi de la 3D qui émerge très clairement des textes.
Ah oui.
Pas une urgence palpable. La crainte de perdre leur position de leader si le passage à la modélisation 3D n'est pas assez rapide.
Oui, oui, la transition vers la 3D est vraiment décrite comme un moment critique. Ça a exigé une mobilisation interne très, très forte. Des mémos comme « Urgent Worry », ça fait écho à « Urgent Fury », le projet d'interface, et puis une réunion clé en mars 1987. Tout ça souligne l'importance stratégique et les défis techniques aussi.
C'était plus que du dessin 2D, là.
Ah bah oui, c'était un saut conceptuel. Il fallait passer à une modélisation qui colle plus à la réalité physique, en trois dimensions. Un vrai changement de paradigme.
C'est passionnant de voir ces dynamiques, ces choix stratégiques décrits avec une telle franchise, presque. On ressent bien la pression constante de l'innovation, de la concurrence.
Et puis la vision à plus long terme qui se dessinait. On aura l'occasion d'y revenir.